Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Sophie Fontanelle qui nous emmène aujourd'hui en balade. Romancière, journaliste de mode, influenceuse, rien de ce qui est élégant ou raffiné ne lui est étranger. Son compte Instagram est un véritable présentoir de toute la joliesse de notre temps. Elle vient de publier des fables chez Robert Laffont, les fables de La Fontanelle, c'est sous-titré Aquarim, nos vies sexuelles. Elle nous a donné rendez-vous dans les jardins du Ranelagh.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Bonjour Sophie Fontanelle.
Mais bonjour Frédéric.
Nous voilà donc dans les jardins du Ranelagh. Jardin très élégant, hein. Traversé par les voitures, mais néanmoins...
Pour moi, c'était le seul jardin. C'est là où ma mère m'emmenait quand j'étais enfant.
Ah oui ?
Détestant jouer avec les enfants, elle me laissait toute seule à mes rêves.
Vos rêves. Alors, il faut dire, on peut rêver. Il y a plein d'ambassades ici. Il y a l'ambassade du Gabon, d'Afghanistan. Vous savez que c'est vraiment le quartier des ambassades. Elles donnent toutes sur le jardin. L'ambassade de Madagascar, l'ambassade d'Inde. Il y a même le siège de l'OCDE.
Il y a un truc très drôle, c'est que ce jardin, il est le long là, d'un boulevard qui s'appelle le boulevard Beauséjour, ou d'une avenue. Et avant, c'était l'endroit de la loose quand j'étais au lycée, parce qu'il y avait un petit train, il y avait une voie ferrée là.
Oui.
Donc les gens qui habitaient là, ils se sentaient vraiment l'ali de l'humanité.
Eh ben oui, ils donnaient sur la voie de chemin de fer.
Ils donnaient sur la voie de chemin de fer. Et en fait, par des lois, ça a été abandonné. Maintenant, ils sont carrément vus sur bois. Ils sont carrément sur le bois. Ils sont en raie de bois.
Et sur les marionnettes du Ranelagh, théâtre de marionnettes réputé. Elle vous laissait pas là, votre maman ?
Non, parce qu'elle ne voulait pas non plus payer.
Ben, ça rouvre d'ailleurs, hein. Tout rouvre.
Tout rouvre. Non, mais moi je venais vraiment là. Hein. La marchande de bonbons, je vous montre la marchande de bonbons qui est là, le petit kiosque.
Ouais.
J'avais l'impression qu'elle me connaissait moi personnellement. Et un jour j'ai vu 850 enfants en train d'acheter des bonbons, j'ai compris que c'était peut-être pas ça l'histoire.
Et est-ce que vous veniez vous recueillir devant la statue de La Fontaine ?
Eh bien, je ne savais pas, c'est quelqu'un de chez vous, en préparant l'émission, quand j'ai dit « on n'a qu'à commencer au théâtre du Ranelagh », qui m'a dit « c'est dingue, vous sortez les fables de La Fontanelle et vous allez aller dans le square où il y a la statue de La Fontaine ». Je ne savais pas.
Ah oui, bah c'est ça, Europe 1, on en sait plus que...
Non, mais vraiment, c'est mon inculture crasse, quoi.
Je vais vous expliquer pourquoi vous ne saviez pas, parce que quand vous étiez petite, elle n'existait pas, elle date de 84, cette statue.
Ah !
Et oui.
C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce renard.
Alors,
enfin, peut-être dans ma vie privée.
Mais il se trouve que c'est effectivement La Fontaine donc, qui trône. Et en dessous, il y a un corbeau qui tient dans son bec un fromage. Et un peu plus bas, un renard dont la queue a été plusieurs fois coupée.
C'est vrai. Et les oreilles sont très, très, très dorées par rapport au reste. Je me demande ce que les gens font avec la nuit.
Oui, mais la queue, elle a vraiment été coupée plusieurs fois. Et ils la refont à chaque fois. Vous pourriez en faire une fable aussi.
Vous me donnez une idée, je vais vous laisser, je vais aller tout de suite la faire.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Alors il se trouve que vous publiez un recueil de fables, les fables de La Fontanelle. Pendant le confinement, je vous avais eu au téléphone dans cette émission. Vous aviez raconté que vous écriviez une fable par jour, mais je n'avais pas compris que c'était des fables sur le sexe.
Oui, je gardais un tout petit secret. Déjà que le livre est tout petit, qui fait pas énormément de pages. Non, mais c'est 26 fables.
Il y a quand même beaucoup de fables à lire. Hein.
Oui, il y a beaucoup de fables à lire. Non, mais je plaisante. C'est un petit livre, c'est un bonbon. Et donc, je voulais pas trop en dévoiler. Mais ça m'a beaucoup amusé de décrire la vie sexuelle en fable, parce que ça oblige à être élégant et en même temps, ça permet d'être très cru. Mais vraiment très cru.
Et puis, La Fontaine avait fait l'impasse sur le sujet. C'est un sujet vierge en fable.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait ça. Mais et pourtant, en regardant les fables de La Fontaine, il a tourné autour de vraiment beaucoup de sujets très modernes d'aujourd'hui, mais ça non.
Et vous l'avez fait, vous. Alors c'est bizarre pour quelqu'un qui a fait un énorme best-seller intitulé « The Art of Sleeping Alone ».
Oui, c'est comme
français,
ça en anglais. Ouais.
En français, l'envie, mais c'est pas mal comme titre anglais. Hein, l'art de dormir seul.
C'est moi qui l'ai trouvé ce titre parce qu'eux ils voulaient appeler ça les Américains Hard to Sleep Alone évidemment. Et j'ai dit donc comment dormir seul. Et j'ai dit non, c'est un art. Hein? Oui, c'est bizarre, mais en même temps c'est ça qui c'est le lien quoi. C'est que moi je suis quelqu'un de sans être une voyeuse parce que je suis pas non plus Marcel Proust dans tous les sens du terme. Je me contente souvent de regarder les choses et même dans ma propre vie. C'est-à-dire que je suis assez contemplative, plus qu'active. C'est pour ça que j'ai écrit L'Envie. Et donc, ça m'a permis d'avoir un œil tout à fait clairvoyant pour voir la vie des autres.
Et alors, est-ce que vous vous attendez à ce qu'un jour, dans 50 ans, dans 100 ans, les enfants récitent des fables de La Fontanelle?
Pendant le confinement, il y a un enfant qui l'a fait, figurez-vous, avec la première fable, qui est la fable de l'homme qui tardait à répondre. Et c'était très, très, très drôle d'entendre un enfant dire la fable. Mais il n'y avait pas non plus de mots crus dans celle-ci.
Ouais.
Et je ne suis pas sûre qu'il ait totalement pigé le sens.
Vous nous en récitez une, vous, là?
Vous voulez que je vous en dise une?
Au pied levé.
Vous voulez que je vous dise celle du gosse?
Ouais.
Que le gosse a lu? Tiens, pourquoi pas, hein. En amour, parfois, il arrive que l'on use en vin sa salive. Un escargot se savait lent. Il en avait fait une ruse. Dès qu'il fallait être galant, il avait toujours une excuse pour expliquer ses manquements. Moi, je ne suis qu'un escargot. J'ai ma coquille sur le dos, je suis lent. C'est dans ma nature, c'est pas de la désinvolture, je ne le fais pas méchamment, disait à tel camarade, ce grand amateur de salade. Il avançait cet argument prenant un peu pour une conne la si câlinante licorne qu'un dieu lui avait envoyée. Or, il aurait dû se méfier. Un dieu envoie aux escargots exactement ce qu'il leur faut. Mais s'ils prennent un peu trop leur temps, le dieu leur en retire autant.
Hey, c'est bien pour les enfants.
Ah,
c'est quoi la morale?
Il y en a une, mais la fable est plus longue. Parce que sinon, la morale, c'est qu'avec les licornes, il ne faut pas dépasser les bornes.
Eh bien, on va quitter les jardins du Ranelagh avec leur marronnier centenaire et son ouestier de Byzance. Et puis, on va entrer dans le 16e arrondissement avec Sophie Fontanelle.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Nous sommes avec Sophie Fontanelle dans le 16e arrondissement, rue des Vignes. C'est l'ancienne commune de Passy. Hein. Toute votre balade va se passer dans l'ancienne commune de Passy qui a été rattachée à Paris en 1860. Avant, il y avait des châteaux ici. Il y avait le château de Passy, il y avait le château de la Muette. Vous êtes une enfant du 16e arrondissement, donc.
Oui. Je suis une véritable enfant du 16e. Je suis, mais pas du tout, parce que ma famille était une famille grande bourgeoise. C'est-à-dire qu'on était des surclassés incroyables. Mon père était représentant de commerce et pas un client. Il avait eu un plan pour avoir un appartement. Et ma mère, immédiatement, est devenue... enfin, c'était Maddy Mesplé, quoi. Elle avait un brushing. Elle est devenue 16e, quoi.
Toutes les femmes avaient des brushings, non?
Oui, mais ici, ils étaient particuliers. On allait chez Réjeanne, dans une rue à côté. Il y avait un brushing 16e, quoi, qui était... inimitable.
Là, on passe devant la gare de Boulainvilliers. Donc, c'était toutes ces petites gares tout autour de Paris.
Mais quand j'étais enfant, il y avait un dentiste là-dedans, c'était désaffecté. Il y a même eu un moment où on pouvait jouer et tout ça. Mais enfin, cette rue, on passe dans la rue des Vignes, là où on est. C'est une rue où on a eu beaucoup de mal à la quitter, mon frère et moi. On était très attachés à notre mère.
Vous avez tous les deux vécu avec votre maman jusqu'à...
Non, pas du tout. On a pris des appartements pour vraiment être totalement loin d'elle, mais qu'elle nous voit de sa fenêtre.
D'accord.
Puis après, elle est morte, alors on a un tout petit peu dit qu'elle ne nous verrait plus de la fenêtre. Voilà. Non, mais c'est fou, c'est vraiment une famille incroyablement soudée.
Donc la rue des Vignes, parce qu'il y avait le vignoble de Passy. Hein. Et vous habitiez où, alors?
J'habitais au 62 rue des Vignes, on est devant. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a une toile d'un peintre qui s'appelait Anquetin. C'était les héritiers de ce peintre qui habitait là, là où il y avait l'atelier.
Donc bel immeuble en pierre de taille.
Ah oui, non, mais c'était... ça ressemblait tellement pas à finalement ma famille, quoi, que c'était comique. Donc on adorait rentrer. Quand je suis allée une fois à Rome, chez des amis, une amie avait son père dirigé à l'école française, et on habitait au Palais Farnèse momentanément pendant quelques jours. Je passais mon temps à entrer et sortir du Palais Farnèse pour montrer aux gens que j'habitais là, et ma mère, elle m'avait raconté qu'elle faisait la même chose quand elle avait déménagé ici. Elle passait son temps à entrer et sortir pour qu'on voit qu'elle habitait un bel immeuble. Enfin, c'était vraiment l'ascension sociale dans toute sa splendeur.
Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Vous en avez gardé des tics, des manies
Du 16e?
Du 16e.
Je dirais un extraordinaire pincement de ma voix de temps en temps qui surgit, où les gens tout d'un coup répètent après moi en m'imitant ce que je viens de dire, tellement ça fait bourge. J'en ai gardé des amis, quelques amis d'enfance. Et c'est marrant parce que c'était comme moi des déclassés. C'était comme moi des gens. Ici, il y avait des gens qui étaient. Il y avait de tout, il y avait déjà du showbiz. Et il y avait surtout tous les enfants, des grands médecins, des grands avocats. Mais moi, j'étais assez amie avec la fille de la gardienne, etc. Enfin, personne ne le disait, mais déjà, ça se mélangeait pas trop.
C'est ici que vous avez écrit votre premier texte quand vous aviez 7 ans, qu'on vous faisait réciter devant les gens quand vos parents recevaient des amis.
Oui, c'est ça, j'écris là-haut.
C'était déjà une fable alors ?
C'était déjà des poésies, déjà des fables. J'adorais ça. Ma mère, dans l'immeuble que je vous ai montré, elle avait une machine à coudre dans le salon et elle faisait de la couture. Elle se faisait des vêtements. Elle me faisait des vêtements. Et en faisant ça, elle déclamait du Molière, du Musset.
Beaucoup de femmes faisaient de la couture. Modes et Travaux, c'était certainement le magazine qui tirait le plus.
Alors maintenant qu'elle était dans le 16e, elle trouvait que Modes et Travaux, c'était pas assez chic, mais elle était tout d'un coup, elle avait une voisine qui avait un tailleur d'une grande marque, il y avait des choses Saint-Laurent, elle voulait refaire, enfin voilà quoi, c'était plutôt cette ambiance. Mais c'est drôle parce que c'est assez amusant d'être de pas être dans son bon milieu comme ça, parce que ça aussi ça rend très observateur. C'est un peu comme la différence entre pas trop baiser et regarder la vie sexuelle des autres. C'est la même chose, là, socialement.
Vous voulez dire qu'on voit tout ce qu'il peut y avoir de comique là-dedans ?
Évidemment. Mais en même temps, on voit aussi tout ce qui est génial, parce qu'il y a des choses qu'on envie. J'ai eu envie de devenir cette bourgeoise, quand même.
Et quand vous regardez les autres faire l'amour, c'est pareil ?
Ah oui, de temps en temps, ça me fait envie, oui.
On se retrouve dans un instant avec Sophie Fontanel.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanel sur Europe 1.
Nous sommes avec Sophie Fontanel qui nous fait découvrir le 16e arrondissement de son enfance. On approche le théâtre du Ranelagh qui faisait cinéma aussi quand vous étiez enfant.
Oui, j'y allais jamais.
Ah bon, moi j'ai vu Les Enfants du Paradis parce qu'il le passait presque en permanence.
Non, il y avait un autre cinéma rue de Passy où j'avais aperçu, quand à l'âge où je suis allée au cinéma seule, j'avais aperçu Jean-Louis Dabadie. J'en étais complètement dingue, parce que c'était exactement ce que je voulais devenir, en fait, déjà quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire quelqu'un de très libre, qui gagne sa vie à faire des choses éclectiques et contraire à l'écriture et à quelque chose qui brille. Voilà, ça me plaisait. Et il y avait un autre cinéma, j'allais là-bas pour croiser Jean-Louis
Dabadie. Il y avait beaucoup de cinémas. Il y avait le Mayfair, il y avait le Passy, les Trois Murats. Vous avez souvent raconté l'histoire de votre grand-mère arménienne qui avait immigré en France avec une page de Vogue cachée dans sa manche. C'est vrai ça ou c'est une légende familiale ?
Moi je pense que c'est une légende familiale parce que j'ai jamais vu cette page de Vogue. Alors si cette page de Vogue a existé et qu'elle a traversé tout de même la Méditerranée, l'Adriatique, enfin voilà, c'est à un moment donné elle arrive, à un moment donné elle est suffisamment là pour que tout le monde s'en souvienne, ça m'étonne qu'on l'ait jetée. Donc je pense que, enfin, de même qu'on me disait pendant ce que mon arrière-grand-père était une sorte de maire de la ville, et puis en fait pas du tout. Un jour, je sais plus, en fouillant, je me suis rendu compte qu'il était ferronnier, je crois. On s'invente un passé, hein. Quand il n'y a plus personne pour les vérifier.
Europe 1, 11h30, en balade avec Sophie Fontanel. Frédéric Taddeï.
Il y a toute une mythologie du 16e arrondissement dans lequel vous avez grandi, Sophie Fontanel, avec des enfants de bonne famille, des chaussettes à coordonner avec le pullover.
Ma mère, elle me disait, regarde, regarde comment ils font. Et en fait, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. J'allais chez les gens, je revenais, je disais, ils ont pas du tout, nous on avait acheté une moquette à un collègue de mon père, avait des râpes d'une moquette de boutique. Après, c'est devenu très à la mode. Jean Nouvel a fait tout son appartement comme ça. Mais à l'époque, j'ai vu chez une amie une moquette blanche. Et je suis rentrée, j'ai dit, moi, je veux une moquette blanche. Et je mourrais si j'avais pas une moquette blanche. Et mon pauvre père s'est fendu, quoi, s'est ruiné pour m'acheter, pas très cher, mais quand même, une moquette blanche. Parce que pour moi, ça faisait riche, parce que j'avais vu ça, boulevard Suchet, chez quelqu'un. Voilà.
Votre père était représentant en ours en peluche, hein,
oui.
Je crois.
Et en panoplie.
Ah, les panoplies pour enfants ?
Oui.
Ah oui, tout un rêve. Ça doit être sympa, non, d'avoir un père qui...
Il fallait vider la voiture. Le vendredi, il fallait aller vider la voiture. Donc, ce qui était génial, c'est que je me baladais avec des girafes. Je sais pas, elles faisaient 1m20 de haut, quoi. C'est haut pour un enfant. Des tigres, il y avait une panthère noire. Je suppliais de la voir. Et ma mère avait trop peur que tout d'un coup, elle se matérialise. Enfin, elle s'incarne en vraie panthère et qu'elle nous bouffe. Et voilà quoi. Mais non, c'était un... ça c'était féerique. Hein.
Donc, enfant, vous aviez tout ce que vous vouliez. Vous étiez comme les enfants de la bourgeoisie du 16e arrondissement, qu'on voyait un peu toujours comme des petites princesses.
Oh non, j'étais pas comme ça parce que j'arrivais pas à être exactement comme ça. Quand on regarde le genou de Claire, là, de Romère, on voit exactement comment étaient les filles de ce milieu, quoi. Elles avaient quelque chose de... Je rêvais d'être comme elles. L'arrêt au milieu, les cheveux bien lisses, la petite tenue de tennis, évidemment que moi on faisait pas de tennis. J'ai tellement supplié mes parents d'aller au sport d'hiver qu'on est allé, mais on pouvait pas skier, on n'avait plus de sous une fois qu'on avait fait la location. C'est un peu comme dans la chanson de Jonas. Donc on montait à pied, en fait, en haut des pentes. Et on redescendait pas.
C'est Zola dans les années 60 que vous racontez. Dans les années 60, justement, il y avait Nino Ferrer qui décrivait à sa manière les filles du 16e arrondissement. Vous vous souvenez de cette chanson ?
Non.
Mais, on va l'écouter, les petites jeunes filles de bonne famille.
Certains aiment les filles et leur chantent à tous les vents leur propre numéro de téléphone. Moi je les aime également, mais n'en parle pas tant. Et je suis plus gourmet que gourmand, car moi je les préfère dans le 16e. Les petites jeunes filles de bonne famille qui rougissent quand on les déshabille, qui crient maman au bon moment. Les Saint-Denis touchent les couventines qui font d'aussi bonnes concubines. Chaque soir je recommence la même expérience et je ne m'emporte pas mal du tout. Ouh, et je ne sont merveilleuses, l'on dit aussi du bien des japonaises, et l'on parle également des femmes de l'Afrique, mais je n'ai pas le goût de l'exotique.
C'était Les petites jeunes filles de bonne famille, Nino Ferrer, en 1968. C'est bien elle ?
C'est exactement ça, je les reconnais. Je voulais être comme elle. Enfin, je voulais être comme elle. Enfin, si je voulais être comme elle. Et même à la limite qu'il y ait un gars comme Nino Ferrer qui réplique. Alors maintenant, évidemment, quand on regarde ça avec... je ne sais pas quel âge il avait quand il chantait ça. Je ne sais pas quel âge avaient les jeunes filles. Enfin bon, il ne faut pas trop fouiller, quoi. Mais
Oui, les mœurs ont changé.
Voilà, c'est pas la même époque, mais pour moi, Nino Ferrer, c'est vraiment l'exemple des gars qui étaient dans le 16e.
On passe devant le marché de Passy, avec sa façade et ses grandes lettres rouges.
J'aimais pas y aller parce qu'il fallait rentrer, enfin, c'est un marché couvert. Et bah tiens, il est ouvert le café. Il y avait un truc que j'aimais pas parce que c'était couvert. Et ça voulait dire qu'on allait rester des heures, que ma mère allait prendre tout son temps... Faire les courses, c'était vraiment... C'est la barre pour tous les enfants, non ? Ça vous faisait passer ?
Oui, c'est affreux,
voilà.
Affreux.
Mais j'aimais bien cette place. Il y avait...
Place de Passy.
La place de Passy, c'était... Il y avait un truc qui a disparu qui s'appelait Coquelin Aîné, qui était un salon de thé hyper chic. Et là, on voyait des gens... Après, pour revoir un tel niveau de bourgeois, aristo, enfin pas bourgeois, un tel niveau d'aristo, Il a fallu aller à Cracovie où j'ai vu encore quelques spécimens.
En Pologne, donc.
Ouais, ouais, des gens avec des Loden, des gens vraiment là, c'était vraiment. Je pense qu'à Versailles, on en voit. Mais, et puis ça a fermé Coquelin est né. À côté, il y avait un manège à chevaux. Enfin, c'est fou en fait, comme tout était vert. Ouais.
Il y avait une fontaine verte aussi, mais elle est toujours là.
La fontaine est toujours là.
Au centre de la place de Passy, qui était la place de la mairie, hein, du temps de la commune de Passy.
Bon, il y avait un garçon ici sur cette place, parce qu'il y avait les mauvais garçons du quartier se donnaient rendez-vous là, ce qui rendait la place tout à fait géniale.
Mais les mauvais garçons, c'était quand même des garçons.
Non, c'était les vrais mauvais garçons. C'était les autres ne leur parlaient pas. Et il y en avait un, c'était vraiment. C'était une espèce de faux Elvis Presley. Et pour moi, c'était vraiment qu'il puisse un jour me regarder. Ça aurait été, mais il ne m'a jamais regardé, mais c'était partir avec un mauvais garçon, à peine arrivé dans la bourgeoisie du 16e, partir, mais. D'autres l'ont fait, c'était les vrais bourgeois qui sont partis avec les mauvais garçons, c'est pas moi.
Oui, mais c'est sans doute ce qui vous a rendu romancière, écrivain, fabuliste maintenant. Au fond, c'est toutes ces envies que vous n'avez pas satisfaites à l'époque, non, vous ne croyez pas ?
Moi, je vis en satisfaisant pas mes envies, donc c'est une vocation, quoi. Mais je crois que je me suis mise à écrire parce que c'était bancal, complètement bancal, et ma mère avait des rêves. Je sais pas, elle décrivait les châteaux comme si elle était allée dedans. Enfin, elle avait de la folie des grandeurs, quoi, en fait.
On continue notre balade avec Sophie Fontanelle dans le 16e arrondissement. Nous sommes dans la rue Saint-Gère, un nom qui rappelle les machines à coudre de
oui,
nos.
Parce qu'on parlait de Cracovie, voilà. Justement. Je suis allée dans un. On m'a montré là, une maison de la famille Saint-Gère à Cracovie.
Vous qui êtes une obsédée de l'élégance, Sophie Fontanelle, de tout ce qui est joli, vous avez l'air de dire qu'on est moins chic dans cet arrondissement qu'on l'était autrefois, mais est-ce que ça n'est pas général ? Est-ce qu'on n'est pas tous moins chic qu'autrefois ?
De temps en temps, je pense ça, voilà. Et puis, je vois passer des gens qui n'ont pas un sou, qui sont pas les bons blancs d'ici et je les trouve super lookés quoi. Qui sont, je pense qu'en fait il y a quelque chose d'autre qui est arrivé avec le cool. Et il y a des gens qui ont des silhouettes tellement cool. Fait tout ça en allant s'habiller chez Fripstar quoi. Ils ont des trucs que du coup c'est eux pour moi qui sont les personnes élégantes.
Et vous pensez qu'il y a une élégance qui peut naître d'une pandémie mondiale comme celle du coronavirus ?
Alors non, j'y crois pas. Ce que je pense c'est que c'était très intéressant la pandémie parce que le confinement parce que on voyait les gens qui disaient oui on fait pas attention à quoi on ressemble etc. Donc en fait l'idée ça m'a effaré quoi. L'idée des gens c'est que si on est tout seul ou avec ses proches on fait plus attention en fait, c'est ça l'idée. Mais c'est absolument moi-même toute seule, moi je vis seule, je fais très attention, j'ai un très joli peignoir et je vais vous dire il m'a coûté 10 €, c'est pas une histoire on n'est pas en train de parler d'argent, on est en train. Et pour moi, c'est justement, c'est important de, quand on est seul d'être chic. Alors ça m'a un peu effrayé quand j'ai vu tous ces gens qui disaient on n'en a plus rien à faire de rien, etc. Bon. Voilà.
On ne voit pas tellement de masques hein, dans Paris aujourd'hui. Pensez qu'on peut porter un masque avec coquetterie ?
Oui, je pense qu'on peut. Et même, je ne vois pas le mal à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu des gens, quand on met un casque de moto, c'est pour se protéger d'un accident, on est bien d'accord. Il y a des gens, ils ont toujours un très joli casque, ou alors ils l'ont tagué, ou alors ils l'ont peint à la bombe mate noire ou kaki. Voilà, il y a des gens, ils décorent leur plâtre. Il y a des gens, ils mettent un pansement pour enfants parce que c'est plus joli que les autres pansements parce que dessus, il y a des petits personnages.
Ah oui, c'est vrai que les pansements pour enfants, ils sont plus décorés que les pansements pour adultes.
Il y a toujours des gens qui veulent s'arranger, même quand c'est une question de santé. Et surtout, et puis les gens qui mettent des perruques parce qu'ils perdent leurs cheveux, parce qu'ils ont un traitement. On a le droit, enfin, heureusement, quoi. Ce serait horrible de penser qu'on n'a pas le droit d'essayer de garder cet élan de se faire beau, même quand on est dans des situations où on protège sa santé.
Mais en même temps, c'est très très mal vu, vous le savez bien. Enfin, c'est très mal vu, pas par tout le monde. C'est mal vu, il y en a qui forcément pensent que tout ce qui est superficiel n'a plus le droit de citer.
Oui, mais enfin, c'est des gens qui devraient aller relire des livres sur les cultures où on n'avait pas le droit aux superficiels. C'est bon signe, si vous voulez, quand on est capable d'avoir accès aux superficiels. Moi, je me souviens que quand ma mère était très âgée, elle était à un moment donné, on pensait qu'elle allait y rester. Et puis un jour, je suis arrivée, on m'a dit « Votre mère va mieux ». Et en fait, je suis entrée, il y a quelqu'un qui lui faisait les ongles. Et on m'a dit « Mais dès qu'une personne âgée va mieux, on l'a su ce matin qu'elle allait mieux. » Parce qu'elle a dit « Ça va pas du tout mes ongles ». Et elle a voulu une chemise de nuit, que j'allais au Monop' et acheter une jolie chemise de nuit. Elle avait une exigence de couleur et de matière. Voilà, elle était revenue parmi nous.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Est-ce qu'il n'y a pas une fétichisation aussi de, à la fois des vêtements, mais aussi de la mode et de tous les accessoires de mode?
Vous voulez dire chez moi ou en général?
Non, en général, de plus en plus, chez vous sûrement.
Chez moi, c'est vraiment ça, c'est le fétiche au sens où c'est même sexuel, parce que pour moi, le vêtement, c'est pour moi qui laisse tellement pas les gens s'approcher de moi intimement, pour moi, le vêtement, c'est tout ce que j'ai mon langage pour caresser les gens, voilà, ça c'est pour moi. Après, dans le commerce et tout ça, on a inventé des dépendances aux gens, si vous voulez. Là, peut-être avec le confinement, ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas besoin. De tout ça. Mais on invente des besoins. Ça fait marcher un commerce, mais aussi on a une planète. Parce que moi j'aime beaucoup tout. Mais moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent ouais, tu vois vraiment, je pense que j'ai plus du tout envie d'acheter. Tout ça en partant en vacances au bout du monde. Hein, mais j'ai plus du tout envie d'acheter, etc. Et en fait, nous achetons, nous qui avons les moyens, pour ceux qui ont les moyens d'acheter, nous achetons et nous faisons travailler des gens que ça fait vivre. Donc enfin c'est très important quand même l'industrie textile. Elle n'est pas que dégueulasse. Elle fait aussi vivre des gens.
Oui, elle est aussi pas très bonne pour le réchauffement climatique.
Non, mais si c'était pas elle, ce serait autre chose. Et les voitures, c'est pas bon non plus. Et donc qu'il y ait des prises de conscience, moi je dis toujours ça, qu'il y ait des façons vraiment. Maintenant, on peut, hein, comme c'est même plus des lobbies, hein, c'est facile. Tout d'un coup, il y a des bad buzz qui font que telle marque comprend qu'en fait ça va pas et qu'il faut qu'elle soit plus transparente et plus consciente. Tout ça, je trouve ça très bien. Mais qu'on décide que les vêtements c'est dégoûtant, alors que moi je pense que les vêtements c'est important, ça va pas.
On continue notre balade avec Sophie Fontanelle juste après ça.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Notre balade dans le 16e arrondissement avec Sophie Fontanelle nous a conduit au pied de la maison de la radio, avec ses 700 mètres de circonférence et en son centre une tour de, je sais pas, 70 mètres de haut. Hein. On est au bord de la Seine. C'était déjà là quand vous étiez enfant. Ça a été inauguré par le général de Gaulle en 1963, je crois.
Ah oui, je suis bien contente que vous rétablissiez quelques vérités sur mon âge. Oui, c'était déjà là et il était très facile d'y entrer. Donc moi, alors j'étais vraiment toute jeune. Hein, j'avais 11-12 ans, je venais, on rentrait et là, il y avait des émissions. Je sais pas si c'était pas Top A ou des trucs comme ça.
Il y avait toute la télé, toute la radio.
Et il y avait Jacques Martin qui était là. Et les enfants, en fait, les gens avaient une tolérance quand ils voyaient les gamins. On entrait, on s'accroupissait, un peu comme les gamins qui vont au théâtre, quoi. Et c'est là où j'ai vu Claude François. Du coup, ce qui m'a rendu dingue, c'est que chez moi, mes parents, on avait la télé, bien sûr, toutes ces familles à l'époque avaient la télé. On regardait ces émissions de variété. Et moi, je pouvais venir ici pour regarder comment on les faisait. Alors j'étais complètement dingue, en fait. Et pour moi, on m'aurait dit, tu vas à la Comédie Française, même si ma mère aimait Musset, j'aurais éclaté de rire, parce que le nec plus ultra, c'était de venir voir ici un enregistrement de variété.
Aujourd'hui, vous êtes devenue instagrammeuse. Vous avez quoi, plus de 200 000 abonnés maintenant?
Oui.
Média, vous toute seule. Et alors, un média entièrement consacré au raffinement, hein. Vous postez, c'est comme ça qu'on dit, on poste des photos, toujours pour montrer quelque chose de raffiné.
J'essaie deux choses. J'essaie de faire perdurer une idée du chic. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire en me voyant, ah non, bah alors là, vraiment, elle rêve, si c'est ça l'idée du chic, merci. Mais j'essaie de faire perdurer une idée de ça et de dire que c'est quelque chose d'abordable, que c'est pas certainement pas un truc inabordable, vraiment, c'est ma conviction. Et ensuite, j'essaie aussi de montrer qu'on peut vieillir, puisque le monde de la mode, on peut vieillir, simplement, point, parce que le monde de la mode montre des gens jeunes. Et c'est une aberration, puisque Les clients de la mode ne sont pas si jeunes. Les lecteurs des magazines de mode ne sont pas si jeunes. Et on leur montre de la jeunesse. On continue de cultiver cette envie absolue d'être jeune. Alors moi, je montre que, comme elles disent les filles quand elles commentent, qu'on peut rester dans le coup.
Yeah, oh, oh, yeah. Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
En regardant votre Instagram, je me suis dit, au fond, c'est un bon dosage de ce qu'il faut. Alors, il faut beaucoup de photos de soi. Il y en a beaucoup de vous. Hein. Vous portez des tas de vêtements.
C'est la loi du genre.
Voilà.
C'est la loi du genre, oui.
Il faut glisser des photos de nos chers disparus.
Oui, alors le problème, ça, c'est aussi le problème des boomers, puisque je suis un late bloomer, mais je suis quand même une bloomeuse, quoi. Et c'est que, forcément, nous, on voit partir plein de gens.
Guy Bedos, Jean-Loup Dabadie, voilà, dont vous parliez, donc, Michel Piccoli, Pierre Bénichoux,
exactement.
Christophe, Idir, donc, même, j'ai vu que vous aviez posté une photo d'Idir, le chanteur kabyle, qui chantait, c'est imprononçable, je ne sais pas le prononcer,
Avavai Nouva. Voilà. Mais ça peut au moins servir à transmettre. C'est-à-dire qu'en fait, si on le regarde avec méchanceté, ça, si on est un peu cynique, on dit non mais bonjour, non mais t'as quel âge, t'es né en 1902, enfin je sais pas. Mais sinon, on peut aussi accepter, moi j'ai accepté de mes aînés qui me transmettent quelque chose à condition qu'ils respectent ce qu'était moi ma culture. C'est-à-dire que c'est faut que ça marche, que ce soit un échange. Mais c'est pas mal d'expliquer aux gens, y dire. Je trouve que c'est vertueux.
Alors, il faut montrer aussi des photos de soi jeune. Alors, je sais pas si ça date pas du confinement, ça, où tout à coup, les gens se sont mis à poster des photos de jeunes.
Les gens s'emmerdaient. Alors, il y avait un truc bizarre. Je l'ai fait un moment parce que j'ai, en fait, j'ai retrouvé... Moi, j'ai perdu toutes mes photos. Et là, j'étais chez mon frère, j'ai retrouvé une photo. Mais il y avait un côté, on avait un peu l'impression que tout le monde était mort. Les gens mettaient des photos d'eux. Et voilà, ça c'était ma maman à son mariage. Oui, il faut montrer des photos. Il y a plein de règles. Hein. Le jeudi, les gens, c'est le jeudi qu'on doit poster une photo de soi jeune.
Ah, c'est une règle.
Moi non plus, je ne savais pas, mais je l'ai appris récemment. Mais je ne suis pas sûre de suivre toutes les règles de ça. Mais j'en ai peut-être édicté quelques-unes quand même.
Alors vous suivez la règle des paysages. Hein. Il faut poster des paysages, ça se fait beaucoup.
Je le fais presque pas.
Ah bon ?
Vous êtes vache.
Et puis des fleurs. Des
ça
fleurs
aussi,
toutes
presque
seules.
Pas. Ça aussi presque pas. Cela dit, on est en train de passer devant des fleurs magnifiques, regardez là.
Ah oui.
À la fenêtre là.
Ouais. Bah, c'est les très jolis hôtels particuliers de la rue du Docteur Germain C. Des années 20, hein, des maisons style art déco.
Ouais, là c'est... C'est un bouquet cher, comme on dit. Moi, ce que je fais surtout, ce qui me rend très particulière, c'est que j'écris. C'est que la photo n'est que le prétexte à expliquer quelque chose. C'est quand on a 200 000 followers, ça devient de plus en plus... En fait, au fur et à mesure, c'est de plus en plus compliqué. Ça a l'air de... On pourrait dire, ça y est, s'il y a des tas de choses qui sont gagnées, ben, c'est le contraire. Parce que... quand il y a un événement politique, les gens attendent. Et si vous réagissez pas, et moi j'aime pas beaucoup réagir à ça, les gens disent alors vous vous en fichez, etc.
Oui, on est jugé tout le temps. Il hein. y a quelque chose sur votre Instagram qui vous distingue de la plupart des autres, c'est qu'il y a beaucoup de dessins qui vous représentent, mais des dessins faits par des vrais dessinateurs. Vous êtes devenu une icône au sens littéral du terme avec vos cheveux blancs. On vous reconnaît, on vous identifie en quelques traits de plume. Et ils s'en donnent à cœur joie à tous. Hein.
Ben oui, il y a une revue qui s'appelle Exhibition, qui avait voulu les publier, on avait compté presque 1000. C'est beaucoup.
Donc en fait, le dessin de vous.
Oui.
Enfin, vous représentant.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils sont postés sur Instagram et les gens mettent le hashtag avec mon nom, donc c'est assez facile à retrouver.
Et c'est fait pendant les défilés, pendant les Fashion Week, très souvent.
Non, pas du tout.
Non.
Non, c'est des gens pour qui le fait que j'aille au Fashion Week, sans doute, ça me met dans un milieu qui les fait rêver. Mais en vrai, ce qu'ils aiment, c'est la posture que je prends. Et moi, ma posture, ma position, un peu déhanchée, un peu comme un mannequin des années 80, est complètement inspirée des photos de Peter Knapp.
Oui, qui était le directeur artistique de Elle,
voilà.
À la grande époque, hein, dans les années 60.
C'est à ça que je joue, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure. Je montre que, quel que soit son âge, on peut un peu se la raconter.
On va arriver rue Berton, une des rues les plus savoureuses du 16e arrondissement. Mais d'abord, on va écouter une de votre chanson préférée, on peut dire. Hein. 24 000 baisers, mais en italien, ça se dit comment ?
24 000 baci.
Et c'est Adriano Celentano, l'auteur, compositeur, interprète de la chanson.
Con 24 4000 baci. Oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante 1000 baci. 1000 carezze vuole allora, con 24.000 baci. Felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo bacio te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, perché con 24.000 baci.
C'était 24.000 baisers, la version italienne d'origine d'Adriano Celentano. Pourquoi c'est la plus belle chanson du monde pour vous?
D'abord parce que ça me fait penser au Fanfaron, même si je ne crois pas que ce soit exactement la chanson du film Le Fanfaron. Donc ça me fait penser à la gaieté et à la tragédie de ce film. Et aussi parce que je n'ai jamais donné 24.000 baisers et que ça me fait comme un projet de vie, vous voyez.
On se retrouve dans un instant avec Sophie Fontanel, rue Berton, au 24, l'entrée secrète de la maison de Balzac. Nous sommes donc dans la rue Berton, une petite ruelle pavée entre des murs aveugles. D'un côté, il y a l'ambassade de Turquie et de l'autre, l'entrée de la maison de Balzac par laquelle il fuyait, nous dit la légende, ses créanciers. On nous a ouvert la porte. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Pourquoi la maison de Balzac vous attirait?
Alors, elle a plusieurs accès. Donc, elle a celui-ci, dont vous venez d'en parler. Celui-ci, il est déjà assez mystérieux pour moi parce que je suis d'origine arménienne et l'ambassade de Turquie, c'était l'endroit où il fallait pas passer parce que là, on allait se faire, il allait se passer un drame, quoi. Enfin, on avait, c'était vraiment diabolisé, on avait peur. Et en même temps, quand on faisait les manifestations le 24 avril pour la commémoration du génocide, on venait jusque ici.
C'est pas la maison de Balzac pour vous, c'est
l'ambassade de Turquie. Donc, d'un côté, c'est ça. Donc je vous dis, c'est mes racines arméniennes. Et de l'autre côté, j'avais une amie qui habitait, monsieur il doit savoir, la maison qu'il y avait là, dans la petite escalier qui descendait. Et elle disait, il y a Balzac qui a habité à côté. Et vous imaginez ce que ça fait dans l'imagination de savoir qu'on est dans cette maison qui est comme un jardin. Elle est insoupçonnable, l'autre maison. Hein. Et on vous dit, il y a Balzac à côté. C'était comme s'il était
encore
là.
Mais lui, il habitait dans un appartement. Hein. Il y avait des locataires, d'autres locataires à l'époque.
Balzac, il n'était pas tout seul dans sa maison.
Non.
Il y avait plusieurs familles qui habitaient en dessous et Balzac se plaignait parce que juste sous son cabinet de travail se trouvait un blanchisseur, ce qui fait qu'en été, entre le soleil qui tapait sur le zinc et le blanchisseur qui faisait bouillir l'eau, Balzac mourait de chaud.
Vous voyez, c'est pas aussi rêvé l'existence des
écrivains. Non, mais je vais retourner à mes rêves. Non, je m'en vais.
On rentre dans la maison, on va monter les escaliers.
Europe 1, en balade avec Sophie Fontanel. Frédéric Taddeï.
Ah oui, il est là, son bureau.
Nous voilà dans...
Alors, il y a quelque chose que j'adore, moi, c'est l'histoire... Tu peux parler ?
Oui.
C'est l'histoire de sa canne, là, de son...
C'est une époque où les hommes affectaient d'avoir des cannes, même quand ils n'en avaient pas besoin.
Oui, et alors, la chaînette provient d'un collier de jeune fille de Mme Anska. C'est dingue, non ? La femme qu'il aimait. Le pommeau est gravé aux armes des Balzaciens. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est le souci qu'il avait de la coquetterie. Tout à l'heure, on parlait du superficiel. Balzac, il avait jamais de fric. Ben, enfin, il aimait quand même les
belles
choses.
Une belle canne, mais comme Baudelaire. Hein. Comme Baudelaire. Alors voilà le bureau de Balzac. Nous y sommes. Son fauteuil. la petite table où il écrivait. Il écrivait quoi, 18 heures par jour? Vous n'en êtes pas là, vous?
Moi, je fais plus encore, moi. Non, mais je vous jure, j'arrête pas d'écrire. Alors, c'est pour la comédie humaine, mais j'arrête pas d'écrire, parce que quand vous avez... D'abord, j'écris des livres, j'écris des articles, et rien que ce compte Instagram qu'on pourrait considérer comme une denrée négligeable, ça demande de répondre aux gens, ça demande un énorme boulot, en fait. Donc, je suis tout le temps...
Vous avez plutôt des lectrices ou des lecteurs? Balzac, on le sait, il avait beaucoup de lectrices. C'était déjà à l'époque les femmes qui faisaient les succès littéraires. Hein. Depuis La physiologie du mariage, qui est un de ses premiers grands succès, en fait, ce sont les femmes qui vont faire de Balzac un écrivain célèbre.
Mais moi, j'ai les statistiques, en fait, je les vois. Donc, il y a une majorité de femmes, mais il y a quand même genre 35% d'hommes. C'est amusant, quand même. Il y a de temps en temps, il y en a qui m'écrivent. Alors, la technique de drague... Alors déjà, moi, je me dis, c'est des fous, quoi, parce que moi, je me perçois comme quelqu'un d'indragable, enfin, d'une autre époque. Et ils me disent « Salut !» en message privé. après, je reçois pas de réponse. Après, je reçois timide. Et après, je les bloque.
Et après, vous en faites des fables. Parce voilà. Que les fables de La Fontanelle, c'est exactement là-dessus.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Alors, qu'est-ce que vous avez amassé dans cette maison de Balzac? Parce qu'il n'y a pas les livres. Mais...
Non, il n'y a pas les livres. Et en réalité, ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être l'inverse de ce que l'on s'attend à trouver dans une maison d'écrivain. On n'a pas voulu faire un lieu de pèlerinage réservé aux personnes connaissant déjà tout l'écrivain ou toute son œuvre, mais faire un lieu d'incitation à la lecture. Donc si vous ne connaissez pas Balzac, venez ici. Alors vous ne comprendrez non pas qui est Balzac, ça c'est l'aspect historique, c'est pas forcément le cœur de notre intérêt, mais pourquoi il faut le lire, pourquoi les livres de Balzac sont utiles aux lecteurs d'aujourd'hui. Parce que Balzac fait partie de ces écrivains universels qui proposent un modèle de réflexion et d'analyse sur la société qui est valable aujourd'hui plus encore qu'hier et peut-être moins que demain.
C'est ce qu'il y a d'extraordinaire chez les grands écrivains, hein, c'est que tout ce qu'ils ont écrit, alors lui en l'occurrence au 19e siècle, c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai 150 ans plus tard.
Il parle de l'homme. Et l'homme n'a pas changé.
Et de la femme aussi, accessoirement.
Et beaucoup de la femme. C'était l'homme au sens général.
Vous pensez à la postérité, Sophie Fontanelle, de vos fables, de vos romans?
Non, jamais. Je viens de lire là, dans les mémoires de Woody Allen, il dit « La postérité, je m'en fous. Qu'on se souvienne de moi comme d'un cinéaste ou d'un pédéraste, ça m'est égal, mais pas loin d'une pharmacie. Qu'on me mette pas loin d'une pharmacie. »
Pas d'un pédéraste, d'un pédophile. À ne pas confondre.
Ouais, c'est
ne
vrai.
Pas confondre.
C'est vrai, c'est vrai. Ça rimait, alors voilà. c'est ça, à force de faire des fables.
On passe devant un poêle du 19e siècle. C'est comme ça qu'on se chauffait et on ressort.
Voilà, derrière ce mur, il y a la maison où j'allais. Pardon de couper la parole, mais c'est quand même une émission qui m'est consacrée.
On ressort donc par la rue Raynouard. De la maison de Balzac, qui est un musée depuis 1910. Donc pour ceux qui veulent le visiter, l'entrée c'est 47 rue Raynouard, la vraie entrée. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Nous voilà donc avec Sophie Fontanelle en balade dans le 16e arrondissement. Sophie Fontanelle qui publie Les Fables de La Fontanelle chez Robert Laffont. Elle est devenue fabuliste en plus de journaliste de mode, d'influenceuse et de romancière. Nous sommes dans la rue Raynouard, la plus ancienne rue du village de Passy. Il y avait eu une explosion de gaz, je me souviens, dans les années 70. Plusieurs immeubles avaient été soufflés. Il y avait une douzaine de morts, une soixantaine de blessés. Vous habitiez encore le quartier à l'époque?
Bien sûr. Et j'étais au lycée quand on nous a annoncé ce qui se passait. Lycée ou collège, je ne me souviens plus, mais c'était le même endroit. Et ils ont, les enfants, les parents sont venus les chercher et il a fallu loger chez nous. Tout le monde a pris d'autres enfants. Pour la nuit, tout le monde a essayé de se loger parce que c'est quand même, ça a couvert énormément d'immeubles. C'est une énorme explosion de gaz.
On se dirige vers la place du Trocadéro, au lieu de la Fashion Week parisienne. Pourquoi les vêtements sont si importants? à votre avis, pour vous, Sophie Fontanelle, mais pour nous tous, au fond, pour tous ceux pour qui c'est important?
Alors, pour moi, parce qu'ils ont été, dans ma famille maternelle, le facteur d'intégration. Et en fait, on ne pouvait pas devenir riche, mais on pouvait s'habiller de manière élégante. Et on s'est jeté sur cette opportunité, voilà.
Pourquoi aime-t-on ces vêtements? Vous l'avez dit, pendant ce confinement, vous l'avez même raconté au téléphone dans cette émission sur Europe 1. Vos vêtements vous manquaient. Vous étiez confiné en Normandie et vos vêtements vous manquaient.
Oui, parce que... Alors, j'ai aucun problème, j'aime beaucoup l'été. D'ailleurs, c'est très rare les endroits dans le monde où on peut le faire maintenant. J'aime beaucoup être nue. Ou toute nue, j'aime bien. Ou alors sinon, il faut vraiment que je sois bien habillée, quoi. Il y a des gens qui disent je m'en fiche ou c'est pas si important, mais pour moi c'est je sais pas, c'est j'arrive même pas à le dire, hein. C'est la vie qui veut plus parler alors que normalement elle arrête pas de jacasser. C'est vital en fait.
Pourtant ils sont fabriqués à la chaîne, souvent dans des pays lointains. On a l'impression qu'ils nous ont choisis. Qu'on est inséparables, au fond.
Je dis ça de temps en temps. Je dis qu'il y a des vêtements qui vous choisissent. Parfois, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir un blazer bleu en peau de pêche. Un truc introuvable. Hein. Comme en denim, mais en peau de pêche. Un peu comme du velours, comme ça. Et puis avec un peu un col 70. Puis en même temps, il aurait deux boutons dorés. Et puis, quelqu'un vous dit, tiens, viens, on va aller là. Vous n'avez pas envie, vous arrivez. Et puis, il y a une brocante. Personne ne le savait. Et puis, il y a un blazer, un pot de pêche à votre taille. C'est marrant, les vêtements, je pense qu'ils vous choisissent. Quand vous dites qu'ils font travailler des gens qui travaillent comme des chiens pour des salaires de misère...
J'ai pas dit ça, mais j'ai dit dans des pays lointains.
Oui, mais bon, si, c'est ça, mais c'est pas forcément ceux que j'achète. Moi, en rentrant du confinement, j'ai donc...
Vous avez renoué avec le shopping?
Non, pas du tout, mais j'ai rangé mon placard et j'ai fait un post, d'ailleurs, sur Instagram pour dire que c'est fou, je pense que 80% de mes vêtements sont des vêtements vintage. Parce que le vintage, c'est quelque chose qui était cher, beau, rare, et que des gens n'ont pas usé, aussi, et puis qui se retrouve des années plus tard à avoir perdu toute sa valeur. Il y a des gens qui ne veulent pas en acheter parce qu'ils disent que ils ont l'impression de porter les vêtements des morts.
Pas vous?
Non, moi j'ai l'impression que c'est mon héritage puisque j'en ai pas, c'est celui-là.
Europe 1, 11h30, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Mais vous n'avez pas renoué avec le shopping? Vous n'avez pas envie de... En ce moment, il n'y a pas... Vous
n'avez
pas
essayé. D'envie? Non, mais j'ai essayé. Mais si vous voulez, entre le gel, le masque, c'est pas amusant, quoi. En fait, je dis pas que je le ferai pas. Mais pour l'instant, c'est tellement lié à la... C'est une crème sur le lait, quoi, quand même. Puis vous achetez pas... Le shopping, c'est pas acheter. On dit shopping, mais
c'est essayer.
C'est essayer, c'est regarder, c'est s'arrêter dans un café puis finalement pas faire de shopping. C'est beaucoup de choses. Là, je vais bientôt aller aux puces parce que tout d'un coup, je me dis peut-être là-bas je serai un peu plus tentée. Voilà, j'ai envie. Non, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup regarder les choses. Hein.
Mais les vendeurs, c'est souvent des vendeuses, vous laissent essayer ce que vous voulez en ce moment?
Ça dépend des boutiques. Je sais pas, je suis entrée dans une sorte de grand magasin, on pouvait essayer, il y a des endroits où ils veulent pas. Je pense qu'ils ont des consignes, je sais pas, soit ils les respectent pas, soit c'est pas les mêmes consignes partout, je sais pas. Mais on n'a pas très envie avec un masque, on se sent pas très beau avec un masque, faut bien dire.
Nous traversons la place de Costa Rica. On est dans le 16e, dans toute sa splendeur, avec son architecture très particulière et la tour Eiffel qui apparaît au-dessus des immeubles.
Je crois que Jean-Louis Dabadie habitait là, dans ce boulevard. C'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Nous avions nos rumeurs dans le quartier. Et on nous disait, Aznavour, il habite là. Jane Birkin, il habite dans cette rue, par exemple. Ça, j'en suis sûre, je suis allée l'interviewer. Non, la rue de la Tour, à côté. On se demandait où étaient les vedettes. Hein. C'est amusant. Ah, oui.
Bah, les terrasses, les cafés sont ouverts. On va peut-être s'asseoir, Sophie Fontanelle.
Ah oui,
on se retrouve
volontiers.
En terrasse après une pause. Nous sommes attablés à la terrasse du Franklin, à l'angle de la rue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin qui habitait ici. Hein. C'est rue Saint-Ger qu'il avait mis son paratonnerre, le fameux, le premier.
Mais je ne savais pas tout ça.
Et sur nos tables, il y a ScanMe. C'est le nouveau système sur les terrasses des cafés parisiens pour pas qu'on touche les menus, les cartes. Vous scannez un QR code et la carte apparaît sur votre téléphone portable. Ce qui fait que vous voulez quoi, Sophie Fontanelle ?
Une limonade.
Bah, deux limonades. Alors moi aussi, j'aime bien les limonades.
Je suis en pleine régression, comme je suis dans le quartier de mon enfance. Je vais peut-être prendre des chocobéennes aussi.
Ben voilà les limonades. On vous demande encore beaucoup de limonade ou il n'y a plus que nous deux qui buvons de la limonade ?
La limonade, si. C'est demander la limonade. Elle est trop demandée. Il y a aussi des cocktails. Cocktails alcool, sans alcool.
Ouais. Ben, voyons, on n'est pas tout seul.
Au fait. Ça démarre bien. Hier, ça démarre bien.
Ça pourrait être pour nous, ça aussi.
Apéro Sprite, ouais.
Quand j'ai lu votre recueil de fables, Les Fables de la Fontanelle, et que j'ai vu toute cette sexualité, puisque c'est sous-titré à quoi riment nos relations sexuelles, hein. Alors, à quoi rime-t-elle pour vous ?
Bah, je réponds, je dis elle rime, c'est déjà pas mal. Justement, elles sont absurdes. Elles riment que c'est la vie, c'est nos pulsions, c'est. Voilà, c'est. On voit bien à quoi elle rime. Mais derrière, de temps en temps, ça rime vraiment à rien, quoi. C'est. Je regarde. Plusieurs générations maintenant, moi j'ai 57 ans, donc plusieurs générations se vivent la sexualité. Et plus ça va, plus je trouve, plus je donne de l'importance à quelque chose de presque complètement sacré dans l'amour. Enfin voilà, donc je suis devenue, mon cas s'aggrave. Et puis de plus je trouve ça poilant, quoi, ce que racontent les gens.
Vous nous en récitez une autre ?
Ça, c'est la fable de la femme qui voulait rire même au lit. Une amie pensait qu'en amour, le plus terrible des faux pas était de garder son sérieux. Et c'était sa légèreté de faire passer dans ses yeux une malice illimitée. Son humour vous mettait par terre en guise de préliminaire. Les caresses venaient après, comme un don, vient sur le prêt. Bien sûr que les années passant, notre amie devenant si drôle, il se trouva des agaçants pour lui redresser les épaules. « Vraiment, ce n'est pas érotique », lui expliqua catégorique à l'amant. « Allons, tu le sais, sexe et humour ne font jamais, jamais bon ménage. Parce que c'est super fragile, une queue. On ne peut pas se payer sa tête. C'est sérieux, tu le sais, arrête. » Je peux continuer un peu ? Moi, je ris quand je suis heureuse, répondit notre turbulente. « Quand je jouis, j'en ai de fameuses qui me viennent, des récurrentes. Allez, franchement, détends-toi. » Et cet amant, alors là, c'en est trop. Se détendre, est-ce le propos ? On doit se tendre, figure-toi. C'est une injonction millénaire que l'on a dans le pantalon. Et elle, et ça pourrait pas se faire en se marrant, lui. Et j'ai dit non.
C'est un peu autobiographique, ça, non ?
Celle-ci, elle est pas complètement... ça se termine quand même que la fille finit par faire l'amour en gardant son sérieux. Et elle rit pas, elle rit pas, elle rit pas. Et à un moment donné, elle tombe sur un mec qui adore André Malraux. Et à un moment donné, elle se dit, vraiment, on se marre pas. J'ai pensé à Audiard, parce que dans Audiard, il y a Marlène Jobert qui dit à un mec, « Et si je te peignais en bleu, qu'on se marre un peu ?» Et elle, dans la fable, la femme écarte les jambes et tout d'un coup, elle se fane d'André Malraux. Elle lui fait « Entre ici, Jean Moulin !» Bon ben voilà quoi, il débande.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.
Je crois la civilisation qui a le plus parlé de la sexualité. Au fond, nos aïeux, c'était Dieu qui les enchantait. Nous, c'est le sexe. Et j'ai l'impression que la mode, d'ailleurs, Yéli, la mode, c'est un peu le catéchisme. Il faut être sexy.
Oui, ça m'a exaspéré. D'ailleurs, en fait, les grandes révolutions de mode sont toutes liées au contraire de sexy. Je trouve. Chanel transforme la femme d'une manière androgyne. Nous, on voit le tailleur Chanel, mais il vient à la fin de sa carrière. En vrai, elle a retiré les corsets, fini de retirer les corsets. Elle a fait des choses en jersey très confortables. Et puis en plus, quand on regarde par exemple un autre génie, parce que c'est Yamamoto. Et bien Yamamoto, c'est pas sexy. Lui, ça a été vraiment justement une énorme révolution de la mode. Donc en fait, la mode maintenant, elle est devenue sexy parce que pour plaire à toutes ces clientes dont les maris payent tout et qui ont besoin de les faire bander, c'est ça en fait l'histoire.
C'est comme ça que vous le voyez, vous?
Oui, moi, je le vois comme ça. Je pense, parce que je vois ça comme ça parce que j'ai beaucoup fait les boutiques de luxe et qu'il y a toujours un mec assis et une fille qui sort un peu timidement alors qu'elle voudrait s'acheter un grand pantalon large comme moi. Et elle sort avec une robe. Elle sort avec une robe complètement décolletée dans le dos. Très belle, mais elle sort avec des talons parce que c'est ça qu'il va acheter, le gars, en fait. Le grand pantalon large, il faudra qu'elle revienne en bas. Ou alors, elle viendra changer.
On va écouter... La mode, chantée par The Magouze.
Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Everybody knows the fashion, the catwalk in the street. Everybody knows the stations to meet all other streets. It's a kind of secret that you will never keep. La mode, la mode, la mode.
C'était The Magouze qui chantait La Mode. Et évidemment, The Magouze, allusion à Polly Magou, film de William Klein sur la mode. Connaissiez cette chanson, Sophie?
Absolument pas. Je vais immédiatement me la mettre dans mon téléphone parce que ça pourrait être un hymne pour moi.
On va quitter la terrasse du Franklin. On va se diriger vers la place du Trocadéro. A tout de suite.
Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Et nous voilà, place du Trocadéro avec Sophie Fontanelle. À notre droite, la statue de Benjamin Franklin. Juste derrière, l'immeuble où habitait qui?
Jacqueline Maillan.
Elle habitait là, ouais, bel immeuble.
Elle habitait une des grandes fenêtres rondes là-haut.
Avec vue sur le cimetière.
Ouais, Ça n'empêche pas d'être drôle, hein. Comme quoi, ça doit jouer d'être en contact avec la mort.
Alors, pour vous, la place du Trocadéro, ce sont les grands défilés, j'imagine.
Il y a beaucoup de défilés ici. Alors d'abord, à l'endroit où on est déjà, il y a le haut Trocadéro et le bas Trocadéro. Donc là, ici, on est en haut. Il y en a eu plein, et il y en a encore plein. C'est là où viennent, s'amoncellent des gens qui n'ont pas accès au défilé, mais qui viennent pour voir rentrer les gens et surtout photographier les looks, parler entre eux, se faire du réseau. En fait, maintenant que le coronavirus a fait que il n'y a plus de défilé là en ce moment, mais en fait, il y a tout un milieu qui naît de ça, pas seulement l'industrie de la mode, il y a aussi du réseau de ces gens, des street stylers, on dit, qui prennent en photo le look des gens. Chacun vient essayer d'entrer dans ce milieu ici. On a tous commencé comme ça, même moi. On n'entre pas, mais on reste pendant le défilé assis là, on discute. Et maintenant, au Trocadéro, il y a un nouveau truc, c'est que depuis plusieurs saisons, Saint-Laurent, on va voir s'ils vont continuer à le faire, mais fait un défilé sur le Trocadéro, là en bas, c'est-à-dire recouvre les bassins. Ou alors ils se mettent autour des bassins, je saurais pas vous dire, on voit pas très bien comment c'est fichu. Et il y a là un grand défilé qui commence à la tombée de la nuit quand la tour Eiffel s'illumine.
Mais quand on regarde les défilés et quand on voit surtout les photos qui en sont tirées, qui inondent les magazines du monde entier, on se dit que ce sont des moments de création pure qui ont plus grand rapport avec ce que portent vraiment les gens.
Non, pour des raisons. Alors il y a une raison très pratique à ça, enfin très concrète, c'est que les marques ne produisent que ce qu'elles vendent. C'est-à-dire qu'elles font un défilé, c'est pour ça que c'est important. Des acheteurs du monde entier regardent le défilé, vont dans ce qu'on appelle un showroom, et puis ils disent, bah voilà, j'ai envie d'acheter ça, ce pantalon-là, vous allez le faire en quelle couleur, ça, j'aime pas. Et en fait, un certain nombre des vêtements qui défilent est mis dans le commerce. Et parfois même ils sont même remaniés pour être.
Et tous les autres, on ne les verra jamais.
Jamais. Ils vont être portés par les journalistes de mode à qui on va les prêter. Et ils sont parfois très beaux, parfois immétables. Parfois c'est du gâchis parce que c'est des choses sublimes. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales parce que vous savez bien qu'il y a un scandale qui est qu'on détruisait les invendus, mais on détruit aussi les prototypes.
Pas toujours. J'ai des sacs que j'ai achetés. Sont très beaux.
Oui, oui.
Ils n'ont jamais été fabriqués. On ne les a pas détruits.
Oui, mais il y a eu. Maintenant, on détruit moins, mais il y a quand même eu. On détruit parce qu'on a très très peur que ça se retrouve sur un second marché. Enfin, voilà.
Et c'est peut-être là où j'ai eu le mien.
Voilà, c'est ça.
On a la Tour Eiffel devant nous. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a une fonction sociale pour vous au défilé de mode ?
Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une fonction commerciale. Absolu. Je pense que c'est une fonction surtout d'image, sociale, je n'irai pas jusque-là. En revanche, le vêtement, oui. Après, la mode, elle a une fonction sociale. Elle peut permettre des porosités entre des milieux, elle peut permettre de se rendre beau. Sinon, il y a les gens qu'on trouve beau et les gens qu'on trouve pas beau. Là, on peut brouiller les cartes.
C'est quoi la mode d'aujourd'hui ? La mode des années 2020 qui commence, elle existe ? Il y en a une, on n'avait aucun mal à identifier encore aujourd'hui, on reconnaît tout de suite la mode des années 60 ou 70, mais la mode d'aujourd'hui ?
Non, elle est très difficile à identifier, et c'est bien pour ça que le fait que les choses se soient arrêtées pose un problème, c'est que ils vont recommencer, mais ils s'arrêtent pile au même moment. C'est-à-dire que la mode est dans des redites en ce moment. Donc, on a absolument besoin de sang frais, que ce soit même chez des designers pas forcément les plus jeunes, mais on a besoin de sang frais dans cette mode, parce qu'on ne peut pas passer notre temps. Alors le retour des années 70, le retour des années 80, le retour des années 90, et puis les années 70.
Et ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on est dans la mode rétro.
Oui, alors on revient.
Yves Saint-Laurent, c'était en 70 qu'il a fait sa mode années 40, et on y était déjà depuis 2-3 ans. Les hippies s'habillaient déjà façon grand-père.
Oui, lui, c'est vrai qu'il s'est inspiré des hippies, mais avant, ça a toujours existé, sauf qu'il y avait des créateurs qui arrivaient et qui fabriquaient, parce qu'en fait, les vêtements de Saint-Laurent, enfin, moi, c'est mon métier, hein, un vêtement de Saint-Laurent, moi, je le reconnais du premier coup d'œil, et par ses couleurs, et par sa coupe, par son tombé et tout. Là, aujourd'hui, franchement, à part quand il y a les logos, il n'y a plus de style, hein.
C'est comme les voitures, c'est pour ça que les logos des voitures ont triplé de volume. Parce que sinon, on ne reconnaissait plus les voitures. On ne les distinguait plus.
Ah, je ne savais pas ça.
Ah oui, c'est frappant.
Je trouve, par exemple, moi, mon métier, c'est la mode, donc je ne vois peut-être pas, mais je trouve que les voitures sont quand même devenues d'une laideur extraordinaire.
Et surtout, elles se ressemblent toutes.
Oui. Et les couleurs sont affreuses. Enfin, je ne comprends pas. Peut-être il faut une coupure pour que... Peut-être une nouvelle génération aussi de gens qui arrivent. Je ne sais pas, Jacques Mus, par exemple, c'est une nouvelle génération. Il arrive avec... Il apporte quelque chose de nouveau.
Europe 1, en balade avec Sophie Fontanelle. Frédéric Taddeï.
Vous avez le projet de faire un Netflix de la mode. Ça ressemblerait à quoi ?
Parce que si on ne fait pas les défilés, on se dit comment on va présenter les vêtements. Bon, peut-être on fera des défilés. Mais je me disais, ce serait pas mal d'imaginer des séries. Par exemple, un défilé qui est en train de se monter, qu'on ne verra jamais. Mais tout d'un coup, on voit les gens en train de parler. Il y a une intrigue, en fait. Il y a un suspense. Ça pourrait être fait par de grands artistes. Je pense que ça pourrait être assez beau. Il faut trouver un moyen de...
Et puis on pourrait cliquer et avoir le vêtement qui arrive chez nous.
Ouais. Alors c'est marrant, hein, je ne devrais pas dire ça, mais pour moi, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est que la personne identifie que ce vêtement vient de cette marque et qu'il a une valeur esthétique.
Vous allez continuer d'écrire des fables ?
Oui, je crois que je vais continuer. Enfin, des fables. Je vais en faire cet été pour l'Obs. Et puis, sinon, je vais continuer surtout de faire de la poésie parce que... ça correspond bien en fait à mon tempérament rêveur. Et la poésie, c'est un terrain qui a été complètement... on n'avait pas le droit d'y aller, quoi. C'était vraiment un poète. Ici, il ne disait pas humus, transcendantal, déconnexion, je sais pas quoi. Enfin bon, ça ne marchait pas. Et là, il y a tout un renouveau de la poésie. Ça me tente, voilà. Ça me tente. On revient à Jean-Loup Dabadie, hein.
Il n'a pas fait de poésie, Jean-Loup Dabadie, il a fait des sketchs, des chansons, il a écrit des films.
Oui, mais c'est pas si loin, la chanson c'est pas si loin. Si j'arrive à faire une chanson, ce sera déjà bien.
Vous avez fait des chansons, vous avez même fait des disques quand vous étiez jeune.
Oui, c'est pour ça que c'est jamais loin, quoi. Mais si j'arrive à faire une chanson sur 120 pages, ce sera bien.
Il en reste aucune trace de vos disques d'ailleurs.
Si, c'est à Radio France, de temps en temps on me le sort. J'ai l'air totalement ridicule. Tout d'un coup, il y a une voix un peu comme Fabienne Thibault qui passe. Très belle voix de Fabienne Thibault. Mais moi, j'arrive avec ma toute petite voix. Maintenant, j'ai une grosse voix. Et avec une chanson. Que Clémence, elle voulait. Les gens, ils se disent. Elle est complètement schizo, en fait.
Merci, Sophie Fontanelle.
Ouais, terminons là-dessus. C'est vraiment une bonne idée.
De nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que les fables de la Fontanelle sont éditées chez Robert Laffont. Je remercie la Maison de Balzac de nous avoir ouvert la porte du 24 rue Berton, la petite porte, et le Franklin de nous avoir accueillis sur sa terrasse qui vient de rouvrir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Frédéric Taddeï se balade avec Sophie Fontanelle sur Europe 1.